Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe Degray.
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour explorer ensemble les étagères de notre librairie. Cette semaine, je vous emmène sur les traces d'une couleur, chère à nous, lecteurs, mais aussi angoisse de l'artiste. Nous parlerons du blanc.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Blanc cette semaine donc, puisque je place cette émission sous l'égide du nouveau livre de Michel Pastoureau. Célèbre historien médiéviste, spécialiste de l'héraldique, des emblèmes, et surtout, ce qui nous intéresse ici, des couleurs, Michel Pastoureau vient en effet tout juste de publier son nouvel ouvrage dans la série Histoire d'une couleur. Après le bleu, le noir, le vert, le rouge et le jaune, voilà que l'historien se fend d'une sixième étude, celle du blanc, principalement dans l'Europe médiévale, dans un beau livre à l'iconographie très riche. Le blanc, qu'avant le XVIIe, nul n'imagine comme étant l'incolore, l'absence de teinte, mais bien comme une couleur à part entière, a en effet une histoire sociale et culturelle très dense, que Michel Pastoureau nous invite à découvrir dans cette étude aux abords faciles. De l'extraction de poudre blanche pour peindre les grottes préhistoriques jusqu'au monochrome moderne, l'historien nous invite dans un tour de l'horizon blanc, dans les multiples valeurs et significations de la couleur blanche. Saviez-vous par exemple que c'est à tort que nous prêtons à la Grèce antique une esthétique immaculée, toute de marbre et de lumière? En réalité, la statuaire de la Grèce antique était toute peinte, bariolée, polychromatique. Bien que découverte tôt par les chercheurs, la véritable palette de la Grèce antique n'est cependant pas venue comme une révélation, bien au contraire. Nous avons continué de fantasmer la pureté des philosophes et des démocrates, insensibles aux modes barbares, alors que ce blanc n'était presque que celui des os d'une civilisation que l'archéologie mettait au jour. Saviez-vous également que pendant tout le Moyen-Âge, la couleur antagoniste du blanc n'est pas le noir, mais le rouge, à tel point qu'au XIe siècle, les jeux d'échecs ne voient pas noir et blanc s'affronter, mais plutôt un camp rouge et un camp blanc. La dualité blanche et noire ne s'imposera que bien plus tard, popularisée par le contraste essentiel de l'imprimerie. Bien loin de la sobriété qu'on lui prête aujourd'hui, jamais vide, comme une page blanche, vous découvrirez avec Michel Pastoureau que le blanc a aussi une histoire infiniment riche. Couleur des dieux, puis du Christ, couleur des rois aussi. Offrez ou offrez-vous cette étude en blanc, pour vous immerger dans l'histoire d'une couleur, défaire encore un peu ces concepts modernes que l'on prend trop souvent pour des vérités immémorielles. Vous découvrirez, encore une fois, que les valeurs de nos cultures ne sont pas des traditions si anciennes que cela, que nos représentations traditionnelles n'ont jamais été des données acquises de tout temps, et vous pourrez prendre un recul salutaire pour contempler d'un œil neuf tout ce que nous faisons dire aux couleurs. Caprice de l'édition, peu de temps avant la parution de l'étude de Michel Pastoureau, Blanc paraissait un récit sous le même nom, Blanc, publié évidemment dans la collection Blanche de Gallimard. Un hasard, bien sûr, qu'il était difficile d'ignorer. Jetons-nous donc à la suite de Sylvain Tesson dans le blanc de la neige des Alpes.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Blanc, donc. Couverture de neige sur champ crème bordé du rouge Gallimard. Une petite silhouette à ski perdue sur une surface immaculée. La couverture du nouveau livre de Sylvain Tesson a déjà de quoi laisser rêveur. On s'imagine très bien marcher des heures durant dans un monde tout tissé de blanc, de la neige au ciel couvert, et l'on perçoit vite la force poétique que de telles randonnées monochromes pourraient déployer sous la plume de Sylvain Tesson. Sans surprise, la magie opère dès les premières pages, toujours très littéraire, un tissé d'une foule de références, à l'image de la page de garde, frappée d'une triple épigraphe. Le récit s'ouvre ainsi, sous l'égide de Lord Byron, Rabelais et André Gide. Et Sylvain Tesson nous emmène immédiatement avec lui, le temps en quelques pages de nous adjoindre à son nouveau projet. Une longue traversée des Alpes, d'une mer à l'autre, de la Méditerranée à l'Adriatique, exécuté sur 4 hivers, 4 mois de mars, de 2018 à 2021. Sylvain Tesson nous propose de les accompagner, d'abord lui et son ami guide Daniel Dulac, bientôt rejoint par un nouveau compagnon, Philippe Rémoville. Il avait son idée. Nous partirions en hiver, de la mer Méditerranée, où sombre la montagne, dans des gerbes de palmiers. Nous remonterions vers le nord-est, suivant la courbure de la chaîne, jusqu'à Trieste, ville impossible de l'Adriatique, où la convention fixe la fin des Alpes. En chemin, on resterait au plus près de la crête axiale. Nous dormirions dans les refuges, les abris. Ce serait une chevauchée, mais esquie, entre deux mers. Rien que la neige. Il y aurait des centaines de kilomètres à arracher, mètre après mètre. Cela sonnait comme un travail de forçat. En réalité, c'était une aubaine. La définition du bonheur est d'avoir un os à ronger. La moindre course dans la montagne dissout le temps, dilate l'espace, refoule l'esprit au fond de soi. Dans la neige, l'éclat abolit la conscience. Avancer importe seul. L'effort efface tout. Souvenirs et regrets. Désirs et remords. Mais qu'atteindrai-je à travers cette chaîne pendant des mois et que gagnerais-je à m'infliger ces fatigues? Ce matin-là, je l'ignorais encore. Il ne s'agirait pas de parcourir un massif, mais de se fondre dans une substance. Mon rêve, longtemps poursuivi, s'accomplirait peut-être. Du voyage, faire une prière. N'hésitez pas à vous aventurer à la suite de Tesson dans cette grande traversée du blanc, qui prend très rapidement les couleurs de la méditation et qui a tous les traits d'une recherche d'absolu. Que trouve-t-on dans un paysage aussi monochrome, sinon la perception plus aiguisée de ce que l'on est soi? Ainsi, le regard de Tesson devient rapidement le prisme par lequel les personnalités des trois compères se déploient. Sur la neige et la glace, les personnalités s'affûtent, les gestes gagnent en efficacité. Tout semble tendre vers l'épure, alimenté sans cesse de poésie, littérature de ceux pour qui chaque mot pèse et chaque gramme compte, mais aussi de livres rencontrés sur la route, sur un bout d'étagère d'un refuge perdu dans la neige. Amatrice et amateur de contemplation, de beaux verbes et de journal de route, je vous invite vous aussi à arpenter le récit de Sylvain Tesson, à vous immerger dans le blanc de cette lente aventure à ski. Ces journées de traversée dans la neige, de réflexion sur la valeur et l'histoire du blanc, m'avaient laissé encore une envie de découverte et de voyage. Et c'est pourquoi je vous invite à découvrir un dernier ouvrage, Pure exploration d'une culture méconnue. Aux éditions Magellan et compagnie est paru un nouveau recueil de contes et légendes au sein de la collection Aux origines du monde, dont chaque ouvrage se penche sur les récits mythiques d'un peuple. Cette fois, c'est un peuple du blanc, de la neige et de la glace qui est à l'honneur. Découvrez avec moi les contes et légendes des Inuits.
Le rendez-vous du libraire. Nouveauté de la semaine.
Hommage à la langue inuite et à son vocabulaire équipé pour décrire la neige, le livre s'ouvre sur une courte présentation du peuple et de la culture inuite, suivie d'un lexique dévolu au type de neige et de glace, avant de présenter les noms des plus grandes constellations. Comme un conteur prendrait le temps de se placer sous la protection des éléments et des étoiles avant d'entamer sa veillée. Création du monde, naissance du jour et de la nuit, leçon des aigles aux hommes pour apprendre à s'amuser, les contes s'enchaînent, faisant la part belle aux métamorphoses humaines et animales, et aux rapports entre la faune polaire et les Inuits, mais aussi aux récits de création et de dénomination des étoiles. Origine du lièvre blanc, de la perdrix, de tradition ou des kayaks, ce recueil vous invitera en un large tour d'horizon au pays de la nuit polaire. Et parce qu'un petit de ces contes parlera mieux pour lui sans doute que bien d'autres laudatifs, je vous quitte sur le récit du hanneton voyageur, leçon, pour les hommes sans doute, qui prennent peur avant de s'aventurer loin de chez eux, de leurs préconceptions, de leurs traditions et de leurs terres. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles explorations littéraires. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite à la librairie de la Trinité de Toulouse pour découvrir ses ouvrages et tout le reste de notre sélection de Noël. Place maintenant au hanneton voyageur. Un jour, le chef du village dit à un hanneton qui volait par là. « Eh, petit citoyen, va donc faire le tour du monde. Tu me raconteras ce que tu auras vu, comment les gens vivent, quels sont les fleuves, quelles sont les montagnes et quels sont les lacs. Le hanneton acquiesça et partit en voyage. Il tomba vite sur une pierre, qui servait d'ancre, et à côté, sur un crâne de baleine, tout blanchi par les intempéries. Il grimpa sur le crâne, et contemplant la pierre, il se dit « Voilà une colline blanche et une montagne noire. À quoi bon devrais-je aller plus loin ?» Il contourna la pierre d'ancre et vit par derrière une petite mare. Il se dit « Oh oh, des lacs sont énormes dans ce monde !» À peine avait-il eu cette pensée qu'un énorme scarabée apparut, menaçant. Le hanneton ne fit ni une ni deux. Il s'enfuit et rejoignit le chef du village. Celui-ci s'étonna. « Déjà revenu ? Qu'as-tu vu dans ce vaste monde ?»« Des montagnes, une mer énorme, sur son rivage, une foule d'ours bruns. » Le chef le gourmanda. « Une flaque d'eau, c'est pour toi une mer, et un scarabée qui t'a fait tourner le dos, un ours, petit menteur. » Le hanneton eut honte et se retira. Voilà tout.